Radio Rancière présente Écho de ma commune, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau et de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec un grand intérêt et une grande joie que je reçois Victor Provost. Victor Provost est le maire de Thiron-Gardais. Il est venu plusieurs fois dans notre studio et je suis très contente de l'avoir encore aujourd'hui pour qu'il évoque les projets et aussi tout l'actif qu'il a à son crédit. Victor Provost, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors peut-être vous représentez la commune. J'aimerais que vous me disiez en quelque sorte comment vous représentez la commune. Qu'est-ce que vous avez à préparer? Je pense tout de suite moi au budget. Est-ce que c'est ça le plus important pour vous?
Alors le rôle d'un maire, il est divers. Il y a effectivement la préparation budgétaire qui est importante sur une commune. Et puis après, il y a...
Est-ce qu'un budget, par exemple le budget de Thiron, c'est combien?
C'est à peu près 1 million d'euros en fonctionnement.
Voilà, c'est ça. Il faut que les gens sachent que même dans un village qui compte combien d'habitants?
1000 habitants.
1000 habitants, on arrive quand même à des sommes extrêmement importantes.
Alors Thiron-Gardais a un statut un peu particulier parce que c'est un petit village, mais qui est ancien chef-lieu de canton, donc oui. qui a des structures de polarité, de centralité qui sont importantes. Et on était le plus petit chef-lieu de canton du département. Donc c'est vrai qu'on est dans une taille de commune qui est très faible, avec beaucoup de services et beaucoup d'équipements.
C'est ça. Alors justement, parlons de ces équipements, parce que c'est... Pour une commune, c'est ce qu'il y a de plus important.
Tout à fait. Ben, on a tout ce qui est les bâtiments publics, tout ce qui est les bâtiments d'équipement sportif et de loisirs. On a tout ce qui est les bâtiments et l'église, qui est le centre du village.
Je crois qu'on peut effectivement dire que là, c'est le centre du village, puisque ce n'est pas une église seulement.
Oui, on a aussi la particularité d'avoir une église qui est un peu hors norme et qui est une ancienne église abbatiale.
C'est ça.
Qui a donc un patrimoine qui est assez important, qui est très lourd pour une petite commune comme Thiron, mais dont on est très fier parce que c'est un peu le totem, c'est notre symbole en fait.
Notre phare. Thiron-Gardais.
Voilà, notre phare, tout à fait.
Et justement, il s'y passe toujours quelque chose, je crois.
On a toujours des événements à Thiron-Gardais autour de l'abbaye, que ce soit dans l'église avec des concerts, que ce soit dans les jardins de l'abbaye ou au collège royal militaire maintenant qui va ouvrir d'ailleurs prochainement ses portes.
Ah oui, alors ça c'est quand même très important. Les touristes peuvent venir à Thiron, ils auront beaucoup à visiter.
Toujours, il y a toujours, l'église est ouverte tous les jours, de 10h à 18h. Les jardins de l'abbaye sont ouverts gratuitement tous les jours également, aux mêmes horaires. À la Grange aux Dîmes, il y a une boutique de produits du terroir, l'office de tourisme et un salon de thé, avec 3 salles d'escape game qui sont à l'étage. Et puis le collège royal et militaire, donc, qui se compose d'un musée et des jardins du collège. Donc là, c'est une entrée payante et un musée privé donc, qui est tenu par Stéphane Bern, qui est donc ouvert là à partir du 7 mai et pour toute la saison.
Alors, une commune, il y a le maire, il y a les adjoints et les conseillers municipaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre conseil municipal?
Alors nous sommes une commune de 1000 habitants, donc nous avons 15 conseillers municipaux, dont le maire et 4 adjoints, qui ont chacun leur délégation.
À savoir
Donc on a un adjoint qui est en charge des finances et des ressources humaines. J'ai un adjoint qui s'occupe de tout ce qui est travaux, voirie, assainissement, eau, etc. Et puis une adjointe qui s'occupe de tout ce qui est scolaire, enfance, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est santé sur la commune. Et j'ai un quatrième adjoint qui s'occupe de tout ce qui est communication, vivre ensemble, association, événements, etc.
Et dans les conseillers municipaux, y a-t-il beaucoup de femmes aussi?
Eh bien, on a quasiment moitié-moitié, même presque plus de femmes que d'hommes
très bien.
sur ce conseil municipal. Donc, on a toujours essayé de garder cette parité. On essaye d'avoir une parité en termes géographiques, en termes de représentation d'âge, de profession. Enfin, on essaye d'avoir un certain nombre de compétences et de représentativité de notre village. Donc, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'a pas forcément envie de s'impliquer, mais bon, on arrive toujours à trouver quand même des bonnes volontés et des gens qui s'impliquent. Donc, ça fait plaisir.
C'est un conseil municipal jeune ?
Eh bien, le plus jeune ou la plus jeune doit avoir entre 25 et 30 ans. Donc oui, on est plutôt sur une moyenne d'âge d'une quarantaine d'années.
Oui.
Donc,
vous étiez le plus jeune maire de France, je crois.
Alors, j'étais le plus jeune maire d'Eure-et-Loire. De France, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai été élu, j'avais 25 ans.
Oui.
Donc, en
2008. Et vous faisiez très jeune parce que moi, par un moment, quand je vous ai interviewé, j'ai douté que vous puissiez être maire. Mais non, j'ai vite compris à vous entendre que c'était bien vous le maire, mais vous étiez très jeune. Et bravo, parce que vous avez tenu, et ce n'était pas si facile au début quand même, de trouver le mode de vie d'un maire. Et bravo, parce que votre commune est resplendissante. Et vos administrés sont très heureux. Alors, aussi, vous êtes chargé de l'état civil, de révision des listes électorales. Est-ce que ça vous donne aussi beaucoup de travail ?
Alors, c'est vrai que l'état civil est une grande partie. En fait, c'est la mission première pratiquement des communes. Mais c'est un travail plutôt du secrétariat de mairie, même si nous, on est là pour vérifier, valider, surtout signer. On a tout ce qui est les baptêmes, les mariages, l'enregistrement des nouveau-nés sur la commune, les décès. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'état civil, qui est une part importante en fait du travail du secrétariat de mairie.
Et votre secrétaire de mairie est à plein temps ?
Oui, on a deux secrétaires de mairie.
Ah, deux secrétaires de mairie. Oui. Ah oui, donc ça, c'est très bien. Deux femmes.
Deux femmes, tout à fait. Oui.
Qui sont impliquées, qui habitent Tiron.
Alors, l'une habite Tiron, l'autre habite dans l'Orne. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens formés. Parce que c'est une implication très forte, hein, le secrétaire de mairie. Il faut connaître énormément de choses, tant sur le droit que sur tout ce qui... Le droit change beaucoup, enfin tout ce qui est... les lois et les décrets, etc., changent énormément. Et donc, il faut toujours se tenir informé de tous les changements, etc. Donc, il faut être vraiment très impliqué et à l'affût de toutes les dernières informations. Donc, c'est vrai que c'est un travail très qui n'est pas assez, je pense, reconnu d'ailleurs, parce que les secrétaires de mairie, vraiment, elles passent un temps et une énergie incroyable dans leur travail. Elles devraient être beaucoup plus valorisées, parce qu'en plus, dans nos collectivités rurales, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui veulent s'investir sur... Parce que c'est vrai que c'est une très grande implication.
Oui. Donc là, vous avez deux femmes qui travaillent ensemble.
Tout à fait.
Ah oui.
De femmes qui sont à plein temps sur la commune.
Ah, ça, c'est merveilleux. Et alors, aussi en matière de police, comment ça se passe ?
Alors, effectivement, on est OPJ, officier de police judiciaire.
Ouais.
Après, c'est une étiquette, un titre qui nous est donné, mais qui, dans les faits, c'est difficile à mettre en application, en fait.
Ah, c'est difficile.
Parce qu'on n'est pas gendarme,
non,
on n'est pas policier. Donc, on peut constater des choses... On peut, en fait, quand on constate un citoyen qui n'est pas dans son droit, on peut utiliser cette étiquette pour pouvoir interpeller les services, soit de la gendarmerie, de la police ou le procureur de la République, pour pouvoir soit verbaliser, soit que il y a un travail de la gendarmerie qui se fasse pour pouvoir en fait verbaliser ou résoudre.
Mais parce que vous n'avez pas d'agent.
Non, on est trop petit pour avoir un policier municipal, ni un garde champêtre.
Il n'y a plus de garde champêtre.
C'est fini ça. Alors ça peut, il y a encore des communes qui en ont, mais c'est vrai que on n'a plus ce titre-là et cet agent. Mais voilà, aujourd'hui en fait on a un travail de très bonne relation avec la gendarmerie, qui en fait fait ce rôle, en fait ce travail d'OPJ en fait avec nous quoi.
Oui, c'est ça. Et quand vous avez un problème, vous les appelez, quoi.
Exactement. On passe souvent, en fait, par la gendarmerie, rarement par le procureur, sauf s'il y a vraiment un cas exceptionnel.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, le problème de police n'est pas très important pour vous. Vous appelez, quoi.
Alors, voilà.
Bon. Alors aussi, vous êtes le responsable donc du village. Et est-ce que ça vous prend beaucoup de temps?
Ça prend beaucoup de temps, oui, effectivement, parce que en fait, on se rend pas compte, mais on a énormément de sollicitations. Il y a beaucoup. La mairie est la porte d'entrée de beaucoup de services publics aujourd'hui, qui ont souvent même disparu ou qui se sont éloignés. Donc la porte d'entrée pour les citoyens, c'est la mairie. Donc on est ultra sollicité pour tout un tas de choses, pour des problèmes de travaux, pour des problèmes de voisinage, pour des problèmes d'emploi, pour des problèmes de sociaux, des fois difficiles à résoudre. Donc la mairie est la porte d'entrée et le maire, en fait, et souvent sollicité pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes. Donc c'est vrai que les citoyens connaissent leur maire et sont pour tout en fait on est sollicité. Donc c'est vrai que c'est du temps, beaucoup de temps à passer pour essayer de résoudre les problèmes, pour essayer d'aider aussi hein, les entreprises qui veulent s'installer, qui recherchent un local, des gens qui recherchent un logement, etc. Donc il y a beaucoup de temps à passer là-dessus. Et puis après il y a toutes les réunions de commission qui sont.
Et oui, c'est ça. Je crois qu'il faut en parler parce que vous êtes en direct avec le préfet ou le sous-préfet. Donc, vous avez certainement.
Et puis, se rajoutent aujourd'hui les comités de communes qui ont eux-mêmes leurs commissions, qui ont eux-mêmes leurs compétences. Donc, il y a aussi les réunions avec la communauté de communes. Puis, il y a la réunion avec le pôle territorial du Perche, qui est donc en fait un syndicat qui regroupe 3 comités de communes du Perche aurélien. Et se rajoute aussi le parc naturel régional du Perche, qui est encore une échelle au-dessus. Donc, en fait, on a, en tant que maire, on est représentant dans tout un tas de syndicats et d'autres structures publiques qui sont aussi très chronophages parce que du coup, si on veut s'impliquer dans ces structures-là, de fait, il faut prendre le temps et participer à toutes ces commissions.
Oui, donc vous avez beaucoup de réunions.
Il y a beaucoup de réunions, tout à fait.
Et même pour une petite commune, rappelez-nous combien d'habitants ?
1000 habitants.
1000 habitants. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre activité ? Est-ce que vous pourriez avoir un autre métier ?
Je dirais qu'après, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix d'avoir 4 adjoints pour justement essayer de me dégager un peu de temps. Mais je vois que c'est très compliqué. J'ai arrêté mon activité il y a 2 ans.
Vous étiez...
J'étais dans le milieu du tourisme et de la culture et de la communication. Et puis, j'ai déjà arrêté parce que c'était déjà très chronophage.
Oui.
J'ai repris une activité, on va dire presque alimentaire, pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai vu que c'était très difficile en fait de mener une vie professionnelle en plus d'une activité d'élu. Donc en fait, et je vois aujourd'hui que quand je recherche un travail, aujourd'hui les gens voient quand je suis élu, ils me disent votre CV nous convient bien, mais vous êtes élu, vous n'aurez pas le temps enfin ils ont peur en fait, ils prennent peur en disant il va pas avoir le temps
Je crois que c'est bien de le dire à la radio, que les gens se rendent compte que c'est difficile d'avoir une autre occupation que celle d'être maire. Eh bien, si vous le voulez, nous allons faire une pause musicale. Je suis toujours avec le maire de Thiron-Gardé, Victor Provost, qui nous a expliqué dans un premier temps ce qu'était le rôle du maire et nous avons vu que c'était quand même une lourde tâche. Alors maintenant, j'en arrive au projet. Parce que un maire, bien sûr, a des projets. Nous avons vu que ça lui prenait beaucoup de temps, mais nous savons que Tiron est une ville extrêmement active. Il y a beaucoup de gens qui aiment venir s'y promener, découvrir Tiron. Alors, pouvez-vous nous dire justement quels sont vos projets en tant que maire, Victor Provost?
Donc les projets pour ce mandat se tournent bien sûr autour de l'église abbatiale dont on n'a pas
peut-être,
fini.
Peut-être on va commencer par des projets un peu matériels. Je sais que vous avez déjà, en termes de construction, une chaudière déjà.
Oui, on avait 5 chaudières à fioul qui étaient extrêmement vieillissantes, qui même tombaient en panne régulièrement. Et donc on a fait une étude pour pouvoir essayer de mettre une chaudière à bois déchiqueté. Et donc on a réalisé cette chaudière centrale donc qui remplace les chaudières fioul en 2020. Et donc cette chaudière à bois donc permet de chauffer tous les bâtiments communaux, donc les écoles, la mairie, la salle des fêtes, la cantine et la piscine, donc tout ce qui est autour des bâtiments publics. Et donc cette chaudière à bois déchiqueté est aussi reliée au gaz, donc qui prend le relais quand le bois ne suffit pas.
Alors le bois, vous le trouvez où ?
C'est un fournisseur local qui nous fournit en bois, en copeaux de bois. Donc c'est des plaquettes de bois qui sont issues de bois de forêt de la région. Et donc on a un marché qu'on passe avec ce fournisseur qui nous fournit chaque année. Alors ça se compte en tonnes, hein, parce que c'est des tracteurs
J'imagine.
Qui viennent régulièrement pendant l'hiver nous fournir.
Et il y a quelqu'un qui est chargé de s'occuper particulièrement de la chaudière ?
Alors oui, tout à fait. Il y a un employé communal qui on va dire, surveille les machines. Et puis, j'ai un adjoint chargé des travaux, donc qui suit aussi ça de près.
Donc, votre mairie est chauffée comme ça ?
Tout à fait, avec le bois.
Et vous êtes content, ça fait un an, donc ?
Oui, tout à fait. Ça fait un an. Ça a eu du mal un petit peu à fonctionner au départ, mais maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui fait qu'on a baissé nos factures de consommation.
Ah oui, c'est ça.
Parce que finalement, le fioul coûtait quand même très cher par rapport au bois et au gaz. Donc du coup, on a fait quand même quelques économies de ce côté-là. Bon, après, il y a eu une énorme installation à financer. Mais bon, je pense que sur le long terme, on fera des économies.
Oui. Et les gens sont contents ?
Bah écoutez, pour l'instant, les écoles ont l'air très contentes d'avoir ce chauffage. En tout cas, oui.
Donc ça, cette chaudière, c'était quand même un grand projet, quoi.
Oui.
Ça, d'ailleurs, peut-être, ça a pris combien de temps pour que l'installation soit...
Bon, il y a eu presque 9 mois de travaux. Ça a été assez compliqué parce qu'en plus, on est tombé pendant la période de confinement.
Ah, oui.
Donc ça a été des travaux assez lourds à suivre et même pour les entreprises, assez contraignantes.
Oui. Il y a d'autres communes autour qui ont eu la même idée que vous ?
Alors, je crois qu'il y a, alors c'est sûr, il y a Rémalard qui a déjà une chaudière à bois déchiqueté, mais il y a assez peu de communes qui se lancent en fait dans ce type d'installation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très volontaire et c'est quand même assez complexe techniquement. Hein. Faut se faire accompagner par un bureau d'études, etc. Enfin, c'est assez lourd techniquement.
Alors, ce qui est le plus intéressant, enfin pour moi, c'est tous les travaux qui ont vraiment sont en rapport avec le tourisme. Alors je pense à l'église abbatiale, elle est tellement belle. Là, il y a eu des travaux de fait, je crois.
Oui, on avait déjà réalisé 1 million de travaux il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, on travaille à essayer de lancer une deuxième tranche de travaux pour pouvoir continuer la restauration de l'abbaye, puisqu'on avait le mur nord de l'abbatiale qui avait un dévers de 25 à 40 cm.
Et
donc
oui,
le mur qui fait un peu des vagues et qui commençait à emporter toute la charpente. Donc il y avait une urgence capitale à sauver le bâtiment. Donc on a commencé par injecter du béton dans les fondations pour stabiliser le sol, mettre des micro-pieux avec des arches et pour soutenir le mur. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans une première tranche. Et maintenant, il faut travailler sur la reprise des pieds de charpente, la consolidation du mur et puis la couverture de cette galerie de cloître qui vient au pied en fait, de l'abbatiale soutenir l'ensemble.
Et là, vous êtes aidé pour ces travaux-là?
Oui, on est très aidé. Enfin, la DRAC et l'État sont des partenaires essentiels. Le département d'Eure-et-Loire est un grand soutien également. Et puis, on a du mécénat qui vient soutenir aussi et qui permet en fait la réalisation de ce projet. Parce que sans le mécénat, on ne pourrait pas lancer ces travaux.
Ah oui. Et le mécénat, vous pensez à quel mécène en particulier?
Alors, on a des mécènes privés qui spontanément sont venus vers nous parce qu'on les connaissait ou parce qu'on les a sollicités. Donc qui étaient en fait presque des mécènes de longue date, enfin qui étaient déjà présents sur la première tranche. Et puis il y a la Fondation du patrimoine qui, du coup, avec qui on a lancé une souscription populaire. Et là, on a des gens de toute la France qui font des dons et on a réussi à récolter presque 90 000 euros de subventions
de
dons. En fait, grâce à la Fondation du patrimoine.
Ah oui, c'est quand même très intéressant.
Tout à fait.
Donc là, des travaux ont déjà commencé ou vont commencer?
Alors, on espère pouvoir lancer les travaux à une date dont on ne connaît pas aujourd'hui. En fait, c'est tout problème d'une petite collectivité, c'est la trésorerie. C'est-à-dire qu'à lancer 1 million d'euros de travaux, il faut avoir la trésorerie nécessaire. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, on est en train de mettre tous nos financeurs autour de la table pour voir comment on peut effectivement lancer ces travaux.
Et vous aimeriez commencer quand?
Le plus tôt possible.
Après,
si c'est pas, alors ce sera pas cette année, ça c'est sûr, malheureusement, mais ça sera. On espère pouvoir les programmer l'année prochaine.
Oui. Alors, autre projet?
Alors, les autres projets du mandat, c'est de réunir la mairie avec la Poste, et voir d'autres services publics. Parce qu'en fait, on a la Poste qui nous sollicite depuis très longtemps pour pouvoir installer un bureau de poste dans la mairie, pour pouvoir ne pas perdre ce service. Hein. C'est une façon de conserver le service parce que la Poste, un jour ou l'autre, malheureusement, quittera Tire en Gardée. On le sait, c'est comme ça. Ça fait partie des évolutions, malheureusement, où le courrier n'est plus un service qui est rentable. Et donc, il faut trouver d'autres systèmes. Et pour pouvoir conserver ce service, c'est de faire un bureau de poste communal.
La mairie, alors?
Dans la mairie, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, notre mairie est trop petite pour accueillir ce service. Donc, on a fait l'acquisition d'anciennes banques qui a quitté Tiron il y a 2 ans, dont on a acheté le bâtiment et qui permettrait, en fait, de faire une mairie avec un bureau de poste communal, voire peut-être un espace France Service. Puis, à l'étage, on a la chance d'avoir un étage sur ce bâtiment qui est indépendant et sur lequel on aimerait transformer en maison médicale pour accueillir des professionnels de santé.
Et alors, qu'est-ce que vous ferez de la mairie, l'ancienne mairie et de l'ancienne poste?
Alors, l'ancienne poste la Poste est locataire du bâtiment, donc ça pourrait être une nouvelle activité professionnelle qui s'y installe.
Ah, très bien.
Et puis, l'ancienne mairie restera de toute façon un local communal. On gardera la salle des mariages et la salle de conseil municipal. Donc, ça sera des bureaux supplémentaires. En fait, on est dans une toute petite mairie. Donc, c'est vrai qu'on est un peu à l'étroit. Donc, on aura certainement besoin de ces locaux. Là également, donc on a toutes les archives, etc., qui sont encore présentes.
Donc ça, c'est un projet important.
C'est un projet important, oui, tout à fait, pour maintenir les services de proximité. On y tient beaucoup.
Et vous pensez que ça va se faire bientôt?
On espère pouvoir faire un premier aménagement cette année et pouvoir après ensuite travailler sur d'autres services qui pourraient venir dans les années à venir.
Et sur le plan sportif?
Alors sur le plan sportif, on a eu beaucoup de peine en fait à conserver l'ouverture de notre piscine, qu'on a dû fermer l'année dernière pour des raisons de sécurité aussi, parce que les bâtiments avaient 50 ans, avec des techniques qui étaient trop anciennes pour être rénovées sans faire des frais énormes, une bulle qui était au-dessus du petit bassin qui était en mauvais état, qui ne garantissait plus la sécurité des baigneurs. Donc on a dû prendre la décision de fermer cet équipement, vraiment avec beaucoup de peine. C'était un équipement qui était un peu phare sur Tiron, où beaucoup de Tironais avaient de souvenirs sur cet équipement, où tout le monde a appris à nager sur cette piscine. Donc ça a été vraiment très difficile à fermer, mais malheureusement on n'avait pas le choix pour des questions de sécurité, et puis parce que c'était un gouffre financier pour la commune. Donc on a été obligé de fermer cet équipement. Au-delà de ça, on travaille depuis 2 ans sur le réaménagement du plateau sportif qui se trouve devant, puisqu'on a donc donc un terrain de foot dont on va faire quelques rénovations cette année en mettant une main courante et un pare-ballon. On a rénové déjà des terrains de tennis et donc on va aménager un city stade. On aimerait aussi mettre des terrains de basket 3x3, des équipements de pump track pour les trottinettes, les rollers, etc., des jeux pour les enfants, enfin aménager, en réaménager en fait ce terrain sportif qui était pareil vieillissant, il avait une cinquantaine d'années, donc en fait ces équipements-là n'ont pas été entretenus ou n'ont pas été rénovés depuis très longtemps, donc c'est l'occasion en fait d'essayer de travailler dans le cadre aussi de Terre de Jeux 2024 et des Jeux Olympiques qui arrivent, de pouvoir rénover ces équipements et de pouvoir offrir ces services et ces équipements à la jeunesse et aux Tironnais.
Et les enfants qui veulent apprendre à nager, est-ce qu'on peut les emmener au-delà de Tiron ?
Alors du coup, les écoles vont à la piscine de Fontaine-Simon qui pourra apprendre à nager. Et puis, il y a les piscines aux alentours, Nogent, Seton, Fontaine-Simon, qui sont à proximité, sur lesquelles on peut bien sûr aller continuer à apprendre à nager.
Mais vous ne pensez pas reconstruire
Alors nous, on n'aura clairement pas les moyens de rénover en fait cet équipement. Il y a des négociations qui sont en cours et des réflexions qui sont en cours avec la communauté de communes. Ça pourrait être une réflexion pour le secteur parce qu'il y a très peu de bassins pour l'apprentissage dans le secteur du Perche Tironnais. Et je pense que il y a toute la place à avoir un bassin d'apprentissage et ludique sur Tiron Gardé. Et donc là, c'est un projet qui pourrait être porté par la communauté de communes, mais ça, c'est les élus de la communauté de communes qui en discutent.
Bon, alors là, on fait un grand appel pour qu'ils s'occupent de la piscine de Tiron, parce que c'est vrai qu'à Tiron, il y a presque tout, sauf ça, c'est ça.
Exactement, oui, on a presque tout à Tiron Gardé.
Oui, parce que j'en viens à l'activité culturelle, il y a aussi beaucoup de choses.
Oui, on a la chance d'avoir un tissu associatif assez dynamique. Et puis, donc, on a une saison culturelle qui est ouverte à partir du mois de mai, donc avec l'ouverture du Collège Royal Militaire et la saison touristique qui reprend. Et puis, tout l'été, tous les samedis d'été, de juin à début septembre, on a un concert gratuit dans un jardin qui s'appelle les Jardins Humbert. Et donc, tous les samedis du 25 juin jusqu'au 28 août, il y a un concert gratuit avec un marché artisanal, un barbecue qui est à disposition si les gens veulent venir pique-niquer ou faire des...
Et ça se trouve où ?
Alors c'est dans le centre de Tiron, dans la rue de l'Abbaye. Et donc on invite tous les samedis soirs à partir de 20h les gens à venir pique-niquer. Il y a des tables, des chaises, les gens peuvent venir se rencontrer. Il y a une buvette à disposition.
Ah mais c'est merveilleux.
Et donc c'est dans un esprit guinguette, ouverte.
Il y a la musique
Il y a de la musique gratuite. Donc il y a un concert tous les samedis soirs du 25 juin au 28 août sur Tiron Gardé.
Et ce sont des habitants de Tiron qui donnent ce concert ?
Alors ce sont des groupes locaux, on se tenait beaucoup à ce que ce soit des groupes locaux qui interviennent, donc on a un peu tous les styles, du rock, de la variété française, de la musette, c'est un peu divers et varié, on est là pour se rencontrer, pour discuter, pour partager un moment sympathique, donc c'est généralement les groupes interviennent de 20h30 jusqu'à 23h, et donc voilà, c'est tous les soirs, tous les samedis soirs de l'été.
Ah, c'est merveilleux, vraiment. Et il y a beaucoup de monde. Ça n'a pas commencé encore.
Alors, on a lancé la première édition il y a 2 ans. Ça va faire la 3e année, je crois, qu'on lance les samedis de l'été. Donc, on a toujours entre 100, 150, 200 personnes tous les samedis. Ça dépend de la météo, si elle est clémente ou pas. L'année dernière, en plus d'une météo un peu capricieuse, on a eu aussi le pass sanitaire qui nous a un peu freiné dans tout ça. Mais il y a toujours les gens du coin ont trouvé leur rendez-vous, donc maintenant ils savent que tous les samedis à Tiron il y a quelque chose, donc en fait ça les fait venir, ils vont des fois faire un restaurant avant, ils vont visiter quelque chose avant sur Tiron Gardé, donc il y a toujours le week-end, il y a toujours quelque chose à faire.
Une ville très gaie.
Oui, tout à fait. On a toujours, il y a toujours de quoi faire, même en semaine. On a ouvert des boutiques éphémères d'artisans l'année dernière, qui du coup ont permis à certains de tester leur activité et d'ouvrir des magasins d'artisanat, de brocante, de mercerie, d'antiquités sur Tiron Gardé. Et on voit qu'il y a un renouveau commercial qui est en train de se faire.
Oui, quand on passe à Tiron, on a l'impression effectivement que c'est une ville extrêmement agréable parce qu'il y a force magasins, restaurants aussi. Et c'est vrai que le tourisme doit être très important.
Oui, on sent que le Collège Royal Militaire a apporté beaucoup de choses et que donc du coup il y a une population qui visite Tiron et qui profite du centre-bourg.
Eh bien, un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Victor Bravo, à bientôt pour d'autres émissions.
Merci.
Merci.